nécessité de voir les choses.
C'est con parce que là c'est à rentrer, ça repart les bringards.
On est à côté du Stadium Vélodrome de Bordeaux-Lac, à côté du lac apparemment, mais lac qu'on ne voit pas. Alors ça va être la station numéro 5 du chantier mobile, sur les unités mobiles.
Non, oui, mais il y en a une qui rentre peut-être en
seconde. Et peut-être c'est un bon choix de site parce que on va présenter un peu les mobilités alternatives et aussi c'est un bon site parce qu'on a l'espace pour faire tous les essayages.
Alors, je me présente, je suis Monsieur Coutances Willy. Je suis né le 24 décembre 1943 sur le champ de foire. C'est marqué comme ça sur mon extrait de naissance. Je suis né sur le champ de foire. Voilà. Alors donc, mon vrai métier, je suis, si on peut dire, saltimbanque, hein, n'est-ce pas ? On avait un cirque et tous les gens, presque tous, autant de mes parents aussi, n'est-ce pas ? Du fait qu'on avait un cirque, on avait aussi un petit manège. Alors évidemment, on fabriquait nous-mêmes nos toiles, on fabriquait nous-mêmes nos chapiteaux, on fabriquait nous-mêmes nos cirques et on fabriquait aussi nous-mêmes nos manèges. Et puis, comme on ne veut pas changer, on aime bien ce que nous faisons, n'est-ce pas ? Et alors, on a continué à faire comme le papa, comme les grands-parents, etc., etc. Mes grands-parents, et c'était le cirque Médranon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du cirque Médranon, c'était dans ma famille. Bon, donc, évidemment, on a fabriqué des carrousels. Et alors, vous savez qu'un carrousel, la musique d'un carrousel, c'est un orgue de barbarie. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fabriqué le carrousel parce que c'est notre métier. Et puis, un jour, je me suis dit quand même, il va falloir une boîte à musique, il faut un orgue de barbarie. Et alors, évidemment, ce que j'ai fait pour fabriquer un orgue de barbarie, j'ai rendu service beaucoup à beaucoup de gens. C'est-à-dire, j'aurais rendu service à leur réparer leurs orgues de barbarie. Donc, à la force de réparer les orgues de barbarie, plus le musée Favant, plus d'autres forains encore, j'ai vu comment ça marchait. Donc, j'ai fait tout ce qui était bien sur certains orgues, limonaires, aiguises, mortiers, toutes ces choses-là. Et je me suis donc refait un orgue de barbarie pour mon manège carrousel. Alors voilà, il y a une pression, ça marche avec une pression, avec des soufflets. C'est-à-dire que c'est pas un ventilo, n'est-ce pas ? C'est pas une turbine qui envoie l'air. N'est-ce pas ? Parce qu'il y en a beaucoup qui mettent, maintenant c'est nouveau, ils mettent une turbine. Non. Là, disons que ce sont des soufflets qui montent et qui descendent, qui sont va-et-vient avec des vilebrequins et qui donnent de l'air. Il y a 120, 130, 150, disons, de pression. Alors 150 de pression, ça, on voit ça avec un niveau d'eau. Quand ça monte à 15 cm, n'est-ce pas, dans un tube, quand ça monte à 15 cm, il y a 150 d'eau. Quand, si ça monte à 10 cm, il y a 110 de pression. Voilà. Alors là, ceux-là, ils sont environ, on peut faire nos flûtes, on peut les régler à ce que l'on veut. Ceux-là sont à 150 environ. Parce que après, s'il y a trop de pression, pas s'il y a trop de pression qui arrive, c'est pas beaucoup, mais quand il y a trop de pression qui arrive, c'est-à-dire 180, 200, c'est comme si que nous, avec la bouche, on soufflait fort.
on va souffler, nous, à 200, facile. Et alors là, la flûte elle-même, elle tient pas le coup. C'est pas qu'elle tient pas le coup. Mon idée à moi, maintenant peut-être les autres, ils font ce qu'ils veulent. Mais alors, à l'octavie, c'est à octavie, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un beau son, oui, qu'elle fait, oui, elle canarde, oui. Bon, c'est pour ça, d'abord, elle fait comme un barbare, un barbarie, si on peut dire, hein, voilà. Hein. Bon, comme les canards de barbarie, parce que moi, il me semble que l'orgue de barbarie, justement, on a eu un petit débat avec ça, chacun raconte son histoire, pourquoi qu'on dit et qu'on appelle un ou une un orgue de barbarie. Alors moi, à mon avis, le mot barbarie, je crois que ça devient d'un canard. Pourquoi ? Parce qu'un canard, lorsqu'il fait son bruit, n'est-ce pas ? Ça démarre, il n'y a pas beaucoup de pression. Alors ça fait ouin, et plus il y a de la pression, ça fait ouin, 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 ça fait comme un canard. Donc au départ, la pression du soufflet, elle démarre doucement, c'est normal. Quand ça s'ouvre, n'est-ce pas ? Quand vous avez une petite une boursette, ça s'appelle des boursettes, hein, les petites soufflets. Pas qui s'ouvre au départ, il n'y a pas beaucoup de pression, alors ça fait ouin, et quand ça pousse, ouin, ouin.
Dans le caddie.
Il y a d'autres animaux ?
Une brebis, un bouc et un poulet.
L'idée, en fait, c'était par l'intermédiaire de cette concentration d'unités mobiles, c'était de mettre en abîme un petit peu l'objet avec lequel on se déplace et avec lequel on fait événement, hein, donc le chantier mobile d'Evento. Stéphane Shankland, artiste.
Tu me disais, mais ça serait bien que tu parles du HQAC, je vais en parler, je vais essayer d'être assez simple dessus. HQAC pour haute qualité artistique et culturelle. C'est super prétentieux. C'est un truc français. C'est devenu une nécessité en tant que plasticien de créer quelque chose de ce type-là pour pouvoir arriver à développer un travail qui me sorte de l'atelier, me sorte de l'institution et nous donne une légitimité économique, légale, politique pour intervenir dans, ici notamment, la ville en transformation. On est dans le cas de figure de l'atelier mobile. Est-ce que c'est si on n'est plus dans son atelier et qu'on ne produit plus forcément des projets qui se montrent dans l'institution, alors il y a vraiment besoin de réinventer cette notion d'atelier qui puisse s'implanter n'importe où pour faire avec ce qui existe dans ce n'importe où la matière première pour un projet artistique. Donc la notion d'atelier mobile est très importante. Et puis on a également cette notion du chantier en tant qu'atelier. C'est une des difficultés, je caricature un petit peu, mais dans un contexte art contemporain, c'est le « je », voilà. Et dans la réalité, c'est jamais « je » tout seul. Et ça change beaucoup qui est ce « nous ». Et donc le « nous » est plus ou moins extensible, je le préciserai peut-être de projet en projet.
Nous sommes. On est un duo d'architectes, donc Eric Dordan et Wang Wensai. On travaille tous deux sur les franges un peu de l'architecture, donc tout ce qui est plutôt spontané, tout ce qui est de l'ordre de l'appropriation de l'espace public. Et du coup, à l'occasion d'Imaginer Maintenant, on a pu réaliser un projet, celui-ci qui s'appelle Architecture à emporter. Donc, c'est une sorte de répertoire, un guide infini des cuisines nomades. On est tous deux d'origine asiatique. Et en Asie, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment couramment dans la rue. Donc ces structures, elles fonctionnent vraiment comme des petits lieux de rassemblement où les gens le midi se rassemblent, elles apparaissent entre midi et 15h. Et donc on a repéré à peu près une vingtaine de ces structures qu'on a mis dans un guide, qu'on a tout redessiné, avait nommé. Et il était offert au public à l'occasion d'Imaginer Maintenant pour aller justement repérer, aller revisiter ces différentes structures et porter un regard nouveau dessus.
Donc on est venu avec Barbecue. Et donc ce soir, on est invité par Chantier Mobile pour Evento. Et donc, on compte faire des pop-com avec le barbecue, le vélo barbecue. Alors, c'est un vélo qui tire une table. Et au milieu, il y a une fente de 15 cm par laquelle c'est un barbecue qui est intégré à l'intérieur. Et d'habitude, nous, on le fait pour faire les brochettes. Voilà, c'est ça pour pop-com.
Et que ça saute.
Alors je vais m'en occuper maintenant, je descends de la remorque, c'est assez exceptionnel. Il y a un 8 rover dessus. Je l'ai fait une dizaine d'années également aussi. C'est un châssis de voiture Citroën C4. Alors, n'ayez pas peur, c'est pas du C4 de maintenant, c'est le C4 des années 30. Un V8 Rover à boîte automatique, qu'est-ce que j'ai mis? Le Cadib, je l'ai fait tout en tube avec une main gorille, comme j'ai pu. C'est la main gorille, c'est un outil pour appuyer les tubes. Et soudé par mes soins, ressoudé par des personnes qui soudent mieux que moi à certains endroits, parce que c'est bon pour la sécurité. Et à part ça, il fait 4 mètres de long, 4 mètres 20 de haut. Il peut prendre pas mal de choses dedans, quoi. C'est un caddie à pas ou à mettre entre toutes les mains. Quoi. Pour des gros portefeuilles, je sais pas. Ce qu'on me dit souvent, quoi. Avec un 3 roues, mais ça le fait. C'est une toute petite cylindrée, c'est un 90 ça. Pareil, j'ai fait un châssis, j'ai mis un sidecar des années 69. Mon nom c'est Jojo Bull. J'ai un cheval roulant, calèche géante, fusée, soucoupe roulante, bar roulant, table de restaurant roulant, je sais plus, bateau roulant. Tout est roulant, ouais. Cheminée roulante. J'essaye. Que c'est ça là, ouais, parce que ça n'a pas de nom. Alors. Mais je sais pas, c'est un moteur de chevaux qui est monté dans un cadre fait maison de tricycle. Je lui ai donné un côté un peu far west à un moment parce que bon, je travaillais avec un ami qui s'appelle Guillaume qui a plein d'animaux, des chevaux, des ânes, des oies. Bon, les chevaux, je sais pas, les oies, mais en fait c'est pas mal aussi, c'est rigolo. Lama et tout, puis c'est. Je veux mélanger la mécanique et les animaux, moi ça me plaît bien. Il y a un autre qui démarre qui est pas mal là-bas, celui-là, parce que celui-là il est pas tout neuf aussi là. Ça s'est fait à la base d'un quad de Yamaha il y a quelques années, mais qui est transformé genre bateau, mais dans l'esprit de, je n'ai pas fait esprit, mais de Mad Max.
Il y a beaucoup de monde autour de la table, au sujet de cet échange concernant la question de la participation. Pierre Mahé. Donc Pierre Mahé est architecte, urbaniste, administrateur de l'ADELS, l'Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale. La
participation maintenant est un fourre-tout absolument monstrueux, où on a commencé sur des objets qui étaient comment on fait pour faire revivre, pour revigorer, pour changer, pour faire avancer la démocratie. On a petit à petit changé de cible pour s'occuper par exemple de maintien de la paix sociale ou de recruter des nouveaux notables et des nouveaux élus. Et on revient depuis quelque temps sur la question de la démocratie, mais souvent un peu à l'envers, un peu comme on a fait la décentralisation. C'est-à-dire qu'on est parti sur l'idée de changer la démocratie et on a trouvé comme argument, pour faire changer les choses et bouger cette démocratie, on a trouvé que finalement, c'était pas mal la participation parce que ça pouvait être efficace, ça pouvait être crédible, ça pouvait coûter moins cher, ça pouvait faire que les usagers se reconnaissent dans les projets, etc. Et du coup, on a quitté complètement l'idée que ça pouvait aussi changer la démocratie, que ça pouvait, par exemple, donner plus la parole à tout le monde.
Éric Chevance, il devient en 1998 le directeur et le créateur du TNT, tout nouveau théâtre, c'est correct, cofondateur. Bon.
Juste pour préciser, je quitte mes fonctions au 31 décembre. Là, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi on fait ces choses-là? Parce que c'est pas si évident. La vraie question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que le fait qu'il existe sur un territoire, un établissement artistique et culturel, en quoi ça peut agir sur la vie des gens, sur la perception qu'ils ont de leur cadre de vie, de leur mode de vie, de leur relation de voisinage, etc. Et évidemment, quand on s'est posé la question pourquoi on le fait, c'est que là arrive le comment. Et le comment est tout aussi important. La façon d'entrer en relation avec les gens, ce n'est pas une convocation, c'est comment quelque chose qui nous appartient, d'une certaine façon, c'est comment on met ça en partage. Et comment le fait de ce partage, c'est-à-dire de se désapproprier de quelque chose qui est censé être à nous, et de le mettre en partage avec une partie de la population de notre quartier, comment ça peut changer les questions de l'ordre de la relation. Et puis l'autre élément qui me semble extrêmement important, c'est la question de la langue. Puisqu'on peut toujours faire en sorte que de discuter ensemble, mais très souvent, on ne parle pas la même langue. Quand je dis qu'on ne parle pas la même langue, c'est que derrière un mot, par exemple derrière le mot participation, on ne met pas tous la même signification. Donc la première chose à faire, à mon avis, me semble-t-il, c'est s'assurer qu'on parle la même langue. Et là, effectivement, un travail artistique peut avoir du sens. Et la question de la participation, disons, dans des projets artistiques, ce n'est pas tant, je le répète, de la consommation culturelle, mais c'est bien d'apprendre, à partir d'outils proposés par des artistes, à parler la même langue.
Jean-Louis Sagot-Duvauroux, qui est philosophe, écrivain, journaliste, homme de théâtre.
Les gens qui n'ont rien à foutre de l'art, je crois que ça, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe dans un théâtre ? Quand on va au théâtre le samedi soir, il y a deux choses. Il y a une rencontre avec une œuvre et il y a une mondanité. Mais en Europe, la mondanité et la rencontre avec l'œuvre se disent de la même manière. Qu'est-ce que tu fais samedi soir ? Je vais au théâtre. Hein, généralement avec trois accents circonflexes. Ce « je vais au théâtre », ce qui désigne la mondanité d'une partie de la société, qui sont les classes moyennes et supérieures, blanches en général, qui est une partie qui domine la société dans ce champ. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui se sent exploité, intimidé, humilié dans certaines conversations, dans une certaine façon de s'habiller, va payer 15 euros pour aller te faire humilier le samedi soir. Vous n'y arriverez pas. Par contre, si vous travaillez ces questions, franchement, ce n'est pas très compliqué. Donc, il y a vraiment là une question qui est une question politique. Comment nous faisons en sorte de casser, de briser les intimidations qui empêchent les gens des milieux populaires de participer, sachant qu'il y en a beaucoup qui viennent aussi des mouvements des milieux populaires. Le blues, il n'a pas été inventé dans les salons. Il a été inventé dans les champs de coton par des esclaves. Et c'est lui qui a changé l'oreille du monde. Ce n'est pas, les cours de clavecin qui se donnaient dans la bonne société de la Nouvelle-Orléans.
Gaby Farage, qui est présent avec deux étiquettes ce soir. Farage, bien connu, directeur du Bruit du Frigo ici à Bordeaux, donc il est architecte et artiste plasticien. Il est également l'un des quatre commissaires d'Evento 2011, aux côtés de Michelangelo Pistoletto.
Je pense que dans les pratiques qui engagent une modalité de coopération et de participation, on recherche à la fois à solutionner de l'attendu et de voir émerger de l'inattendu. La démocratie, on parle de ça par exemple, c'est pas une forme fixe, figée, avec un code génétique qu'on essaye d'atteindre. On ne sait pas. On essaye. C'est qu'on a des pratiques. La démocratie, c'est à la fois une histoire, des pratiques, des projections, des angoisses, des idéologies. C'est plein de choses qui sont agglomérées. c'est de l'attendu et c'est un espoir d'inattendu. Et du coup, à travers ça, on est dans un double mouvement, dans le désir et dans la recherche d'une atteinte collective de la gestion, mais aussi du débordement. Et c'est ça qui est pour moi le ferment de ce qui m'anime dans mon rapport à ces pratiques-là. Une condition aussi qui est reliée à ces questions de pratiques participatives, coopératives, c'est d'accepter le risque. Donc, ce n'est pas que l'inattendu, c'est d'accepter le risque. C'est d'accepter de perdre, éventuellement. C'est d'accepter un coût, c'est-à-dire d'accepter l'effort, éventuellement même du sacrifice. Et le sacrifice, si on le renvoie à l'espace démocratique, c'est le sacrifice pour le bien collectif, par exemple. C'est le service public. C'est une forme de sacrifice collectif consenti, un effort consenti pour atteindre des choses.
Jean-Louis Sagot-Duvourou.
Ce dont on a parlé ce soir, c'est au fond, on a dit l'histoire de la liberté continue. L'histoire de la liberté dans le champ du symbolique ne s'arrête pas à la figure de l'œuvre, de l'art, de l'artiste, elle continue. L'histoire de la liberté dans le champ du gouvernement des humains ne s'arrête pas à la démocratie représentative, elle continue. Il y a des choses qui se passent. Mais je crois qu'il faut faire très attention. On ne peut pas rester à l'intérieur de ce champ si on veut résoudre ce problème. C'est beaucoup plus lourd qu'on ne croit. Et je vais vous raconter une toute petite histoire. C'est l'histoire du photographe Seydou Keïta, un photographe bamakois. C'est un homme qui, en 1949, se met une petite échoppe à Bamako. Il y a 100 000 habitants dans Bamako. Et il prend la photo des gens. Et les gens prennent les photos qu'il a prises et l'amènent le mettre sur le mur de leur maison ou dans leur album de photos. Et puis, en 1991... Seydou Keïta est découvert, vous verrez le mot est partout sur Internet, par Françoise Huguier, qui est une photographe reconnue. Elle le découvre, c'est-à-dire qu'elle a l'œil suffisamment propre pour voir des grandes images dans une échoppe de photographes bamakois. Et qu'est-ce qui se passe? Ces photos deviennent des œuvres. Il devient un artiste, c'est-à-dire tout ce dont on a parlé aujourd'hui se referme sur lui. Et toutes ces photos sont avalées par le centre de l'Empire, c'est-à-dire les galeries parisiennes. Elles quittent le mur des maisons, elles quittent les albums photos et elles viennent chez ceux qui ont déjà tout. C'est un sacré problème parce que par où que vous le preniez, hein, si vous allez dire à la famille de Seydou Keïta c'est pas bien ce qui s'est passé, ils vont dire t'es bien gentil, mais enfin nous on a quand même ramené un maximum de fric et on vit mieux que... Et on vit mieux qu'avant. Mais là, on voit bien que les questions qu'on a posées ne peuvent pas se poser uniquement de l'intérieur et qu'elles sont vraiment corrélées entièrement à la position politique qu'on prend par rapport à l'ordre actuel, qu'on appelle le libéralisme, et qui fait de ce dont on a parlé aujourd'hui la fin de l'histoire, hein, l'État représentatif, la figure de la fétichisation de l'art, de l'artiste, etc., dans le champ symbolique, la libre entreprise dans le champ économique, etc., la consommation comme clé du bien-être. Si on n'empoigne pas ces questions de l'intérieur de nos pratiques artistiques et aussi de l'extérieur en tant que simple que vrais gens et en tant que citoyens, je crois qu'on ne pourra pas résoudre ces problèmes. C'est intéressant de voir comment on peut l'organiser.
Merci à vous tous.
Tu vois, petite chérie, c'est art contemporain. Tu fais des bases de participation sans participation. C'est concept.
Thank you.
Voilà, ça sera tout pour le moment. Hein, voilà.